Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Une pénalité de Thomas Ramos, 2 points de plus que les Anglais et le tournoi Destination qui finit très bien pour les Bleus. Le meilleur pour la fin car tout avait très mal commencé, souvenez-vous, début février. Et puis finalement, les Bleus terminent 2e du tournoi, encore pourrait-on dire. Alors cette victoire face aux Anglais sauve-t-elle à elle seule le tournoi des Tricolores ? Que peut-on retenir de positif et de quoi faut-il s'inquiéter ? On parlera aussi des autres nations, des images marquantes de cette édition 2024. Et pour tout ça, je suis aujourd'hui avec les journalistes rugby de l'équipe Renaud Bourrel et Maxime Rollin qui ont suivi les Bleus. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Salut là.
Et avec Aurélien Bouisset qui rentre d'Irlande. Bonjour Aurélien.
Salut.
Crunch, c'est parti. Flexion, lié, jeu. Un match à suspense, un chassé-croisé au score, 10 minutes irrespirables et cette fois, ce sont bien les Français qui gagnent à la fin. Les Bleus ont battu les Anglais samedi soir. Est-ce qu'ils vous ont impressionné sur ce crunch final, messieurs ?
Ce qui a été hyper intéressant de retrouver dans cette équipe de France, c'est sa faculté à réagir quand les événements se sont mis à très très mal tourner. Je pense évidemment à cette période de 6 minutes qui enjambe la mi-temps où ils prennent un 21-0 alors qu'ils avaient considérablement dominé les débats en première et qu'ils auraient dû beaucoup plus se payer sur leur domination. Et puis évidemment, d'aller chercher cette pénalité de la gagne après avoir encaissé un essai encore à la 77e, avoir eu la capacité de récupérer le ballon, de récupérer cette pénalité, de la mettre, parce qu'elle était 50 mètres en face. On a revu cette équipe de France mentalement armée pour aller chercher gagner ce match et physiquement capable de le tenir jusqu'au bout parce qu'il faut les deux facteurs pour arriver à ça. Donc sur ces deux aspects-là, c'était bien de revoir une équipe de France de ce niveau-là.
C'est vrai que quand on prend l'essai là, juste avant la fin du match et qu'on regarde le chrono qui reste à peine 5 minutes à jouer, même pas. Bon. Et ouais, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a du mal à s'imaginer l'équipe de France gagner. Voilà, on se dit, ah, ça y est, le tournoi il est un peu pourri, etc.
Et comme on revoit les images du quart de finale de Coupe du Monde. Enfin,
ouais, ou même ce début de tournoi un petit peu raté. Et c'est vrai que ils ont été chercher cette victoire et du coup, ça nous a fait repenser à finalement ces matchs où, contre l'Australie, je me rappelle, où Damien Penaud met un essai de dernière minute. Il y en a un ou deux autres matchs comme ça qu'on gagne
Sud,
un petit peu voilà, dans le Money Time. Des choses qu'on avait presque oubliées finalement parce qu'on oublie beaucoup de choses très vite. Et moi, surtout avec ma mémoire, je ne retiens déjà pas beaucoup les noms. Donc, et c'est vrai que moi personnellement j'étais presque étonné qu'on réussisse à arracher cette victoire et c'est vrai qu'avec la pénalité aussi de Thomas Ramos il symbolise un petit peu ce côté rageur, vainqueur qu'a finalement retrouvé cette équipe de France.
Surtout que Ramos il en avait loupé une du peu que j'ai vu depuis la salle de presse de Dublin, il en avait loupé une pas longtemps avant et moins difficile que celle à 50 mètres et qui aurait pu tuer le match à ce moment-là.
Exactement.
Vers la 70,
72e. Ouais. C'est vrai que s'il met cette pénalité-là, normalement, les 8 dernières minutes sont tranquilles. Et c'est vrai qu'il la rate. Et donc, du coup, quand il est à 50 mètres, on se dit on n'est pas très serein. Et finalement, il arrive à se reconcentrer. Et il faut souligner aussi que c'est quand même un sacré joueur.
Vous n'êtes pas très serein.
Ouais, enfin, toi, tu n'étais pas très serein non plus. Je te rappelle que ton écran était noir et que tu as failli pas envoyer de papier. Donc,
pas faux.
Ce match, il a rappelé à Fabien Galthié le quart de finale contre l'Afrique du Sud. Sauf qu'à la fin, on gagne, a-t-il dit. Vous avez eu la même impression, vu du stade ?
Pas tout à fait, quand même. Oui, d'une certaine manière, parce que c'est un match qui devait gagner, compte tenu du contexte un peu global, même si les Anglais, en deuxième mi-temps, rééquilibre un peu la partie, mais le quart de finale contre l'Afrique du Sud avait été tellement bien préparé, notamment la première mi-temps. Ils leur ont tellement roulé dessus, tout c'était tellement presque parfait, parce que si ça avait été parfait, ils auraient gagné, qu'on aurait pu avoir ce sentiment-là. Mais contre les Anglais, là, c'est un match magnifique, avec ces espèces de chassé-croisé, ça a été hyper intense dès le début du match, mais c'était quand même un peu plus, même beaucoup plus brouillon dans la partition, dans le rugby proposé, dans le rugby récité. dans ce, je pense qu'il voulait, ce qu'il voulait mettre en place. Donc c'est pas tout à fait la même impression. Il y a juste ce, voilà, moi, ce, ce rebond athlétique et mental qui me fait devenir optimiste.
Non, le copier-coller de, par rapport à l'Afrique du Sud, pardon, je pense que c'est par rapport à cette première mi-temps hyper bien maîtrisée, mais où finalement l'équipe de France ne score pas. Je pense que c'est ce que Fabien Galthié entendait. C'est-à-dire que contre l'Afrique du Sud, on avait fait une super première mi-temps, mais on n'était pas tant que ça devant au score.
On prend beaucoup, beaucoup de points, surtout contre l'Afrique du Sud.
Et contre les Anglais, c'est un peu pareil. On aurait dû peut-être mettre, je ne sais pas moi, un ou deux essais de plus et se rendre le match un peu plus facile. Et ce qui se passe, c'est qu'on prend un essai juste avant la mi-temps, à la 40e. Et après, bon, je ne vais pas refaire le scénario, mais je pense que c'est ça dont voulait parler Fabien Galthié.
Après, les box ne faisaient pas des cadeaux comme les Anglais, parce que je pense qu'il y a un essai français quand même sur touche anglaise, coup de pied au hasard de Thomas Ramos qui retombe par hasard dans les mains
d'un bleu. Jamais au hasard, Aurélien, jamais au hasard.
C'est vrai, c'était dans le plan de jeu de Fabien Galthié qui pense à tout. Donc les box n'avaient pas fait ce genre de cadeau à la Coupe du Monde. C'est la différence entre une équipe championne du monde et d'autres qui pensaient, qui espéraient l'être.
En tout cas, le match a été remporté grâce à la pénalité de la gagne marquée par Thomas Ramos. Est-ce qu'il est devenu un des leaders de cette équipe?
J'ai envie de dire qu'il y était avant, en fait, même s'il ne faisait pas partie du groupe leader, c'est-à-dire des 5-6 joueurs qui sont conviés aux grandes réunions avec le grand chef, comme nous d'ailleurs. Non, mais je pense qu'il était déjà leader dans l'âme, en fait, Thomas Ramos.
C'est on a l'impression que pendant ce tournoi, il a quand même changé de statut.
En fait, moi, je trouve qu'il a une image paradoxale. Quand on le voit comme ça, de l'extérieur... On ne l'imagine pas en leader, alors c'est un ultra gagneur et effectivement un mec qui connaît extrêmement bien le rugby, le jeu, qui a évolué au poste d'ouvreur et qui est à l'arrière parce que dans son club, à ce poste-là, il y a Romain Tamac quand il est apte. Donc on a peut-être une perception un peu biaisée du joueur qu'il est et effectivement du leader qu'il est. Aujourd'hui, il ajoute en plus à ça des qualités de buteur assez exceptionnelles, notamment au niveau international. Mais je pense que ce tournoi, en étant affranchi de la présence imposante et proéminente du duo Dupont-Ntamack, a permis d'installer d'autres joueurs dans ce registre-là. Et Thomas Ramos, qui est passé de l'arrière à l'ouverture, avec quelque part une courbe de résultats ascendante, fait qu'effectivement on ressort en se disant il est dans une autre dimension, mais je rejoins Max, il y était quand même un peu déjà avant, et le chemin était depuis la Coupe du Monde 2019, on l'avait poliment éjecté. Demandé de quitter le Japon aujourd'hui, où je pense que son nom est coché le premier sur la feuille de match. Il y a eu quelques...
Et même à Toulouse, je pense qu'il a eu une importance que les gens mesurent peut-être pas assez, mais pour en avoir discuté pas mal avec Hugo Mola, il parle beaucoup stratégie, il n'hésite pas aussi, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire les choses. Il peut dire qu'il n'est pas content, il peut dire qu'il n'est pas d'accord avec certains choix, il le dit, ça peut gueuler un petit peu, mais 2 heures après c'est fini, ou 1 heure après, ou même 10 minutes après c'est fini. C'est pas quelqu'un qui garde les choses pour lui. Et certains pensent qu'il a même déjà une âme d'entraîneur, voire de manager pour plus tard. Et je pense que durant ce tournoi, en l'absence des leaders habituels, il s'est un peu plus révélé, même si je pense qu'il n'était pas timide avant, mais ça se voyait peut-être moins du coup.
Il y a une image assez dingue hein, pendant le match contre l'Italie, là, ou même plusieurs d'ailleurs, où il vient se poser en position de 10 à côté de Jalibert pour organiser la circulation des joueurs. Alors qu'il est arrière, parce qu'il sentait que ça se passait mal, que ça n'allait pas du tout dans le bon sens. Ça, c'est quand même un signe de tempérament et de confiance dans l'impact qu'on a sur son groupe, importante, je pense.
Samedi soir, on a aussi vu des problèmes récurrents de l'équipe de France. La défense, encore 4 essais encaissés sur le tournoi, c'est 2,8 par match en moyenne, c'est beaucoup. C'est trop même, Sean Edwards a dit. Je suis très déçu par notre défense, notre pire performance défensive depuis 4 ans. Là, il parlait du match contre l'Angleterre. Pourquoi c'est devenu si compliqué pour les Bleus dans ce secteur-là, alors qu'il y a 2 ans, c'était une de ses principales forces?
Bonne question, Léa.
Merci.
Non, c'est assez curieux, effectivement, ce truc. On l'a vu lentement se déliter la défense. sans vraiment avoir l'impression que c'était au niveau du système que ça clochait. Mais effectivement, là, par exemple, sur le dernier essai anglais, il y a Louis Biel-Biarré qui monte sur les extérieurs en pointe et qui ouvre béant la place sur les extérieurs. Bon, ça, c'est une initiative qui prend individuelle, qui déstabilise complètement l'organisation et qu'on a du mal à s'expliquer. Ces sautes de concentration ou ces plaquages ratés, c'est assez étonnant.
Je crois qu'il y avait une stat frappante, c'est que le taux de plaquage réussi des Bleus sur le tournoi est inférieur à 80%. Je crois qu'il doit tourner autour de 75% de mémoire. Et c'est vrai que ça donne l'impression qu'il y a beaucoup d'erreurs individuelles plus que de système. Mais peut-être, tu sais, ce qui était dans le papier de Romain Bergogne sur la défense, une grosse force de la défense française, c'était de réussir à ralentir le jeu des adversaires en bataillant au sol comme des chacals. Peut-être que l'évolution des règles sur les deux dernières années leur permet moins d'imposer ce défi-là et de retarder l'attaque adverse et les expose plus à des duels, à des duels qui peuvent se perdre. Quoi.
C'est sûr qu'ils ont perdu un de leurs points forts en n'étant plus en capacité, à cause de l'arbitrage, d'aller gratter les ballons défensifs dans les rucks. La vitesse de transformation du jeu des adversaires, ça peut expliquer une chose. Après, quand on rate des plaquages, ça peut être de la concentration, de la technique individuelle ou de la fatigue aussi. Il y a tous ces facteurs-là qui peuvent rentrer en...
Ou de la frustration, parce que moi, j'ai beaucoup d'images de Greg Aldrit, justement, qui était réputé pour gratter beaucoup de ballons, qu'on ne gratte plus. Et là, j'ai le souvenir, face à l'Angleterre, qu'il y a peut-être 3-4 fois, où il regarde l'arbitre, l'air de dire « Mais là, j'aurais dû être récompensé, il n'est pas récompensé. » Donc peut-être que ça joue aussi mentalement sur l'aspect défensif, même si je n'ai pas non plus souvenir que ce soit Greg Aldrit qui se troue le plus, mais... Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, j'ai senti cette frustration chez Greg Aldrit par rapport à ça.
Mais c'est ce qui m'a étonné à Dublin ce week-end. Les collègues anglo-saxons, les journalistes anglo-saxons sont beaucoup venus m'interroger sur Sean Edwards pour savoir si ça continuait à bien se passer avec le staff de l'équipe de France. C'est un entraîneur de la défense qui a été tellement réputé sur les 15 dernières années avec le Pays de Galles, puis le début de son mandat avec la France après 2019, qu'il poser une question, quoi. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait plus dans sa méthode? Voilà, mais j'étais bien incapable de le répondre.
En tout cas, cette victoire contre les Anglais fait basculer le tournoi des Bleus dans le positif. Alors, est-ce que c'est réellement positif ou c'est un peu en trompe-l'œil quand même ce bilan?
Vas-y. Vu le démarrage du tournoi, moi j'ai envie de dire que c'est plutôt positif.
Une victoire contre l'Angleterre et tout est pardonné?
Non, moi je dirais pas ça. Mais quand vous prenez une raclée contre l'Irlande au premier match à domicile, que vous gagnez miraculeusement en Écosse, que vous faites un nul bien pourri contre l'Italie, encore à domicile. Ça veut dire que vous n'avez toujours pas gagné à domicile. Bon, le Pays de Galles, vous gagnez contre une équipe qui est quand même beaucoup plus faible, on va dire.
Café cuillère de bois.
Ils battent les Anglais à la maison, donc ça permet de regagner à domicile quand même, ce qui est important. Face à une équipe anglaise qui venait de taper les Irlandais, vous terminez deuxième. Si on compare avec l'Italie, qui a réussi son meilleur tournoi depuis qu'ils sont dans le 6 Nations, avec quand même, si je ne me trompe pas, deux victoires, un match nul, ils sont cinquième. Du coup, si vous prenez juste le classement brut, je trouve que ça c'est presque décevant pour eux d'avoir deux victoires, un nul et d'être que cinquième. Donc c'est pour ça que je trouve qu'en étant deuxième, bah, on est à notre place en fait et on termine sur une note positive et je trouve ça plutôt pas mal pour la suite.
Moi, je trouve le bilan quand même contrasté. Ce qui est inquiétant, c'est de ne pas avoir réussi à redémarrer après la Coupe du Monde, la déception de la Coupe du Monde, comme les Irlandais ont pu le faire. D'avoir perdu facilités pour se préparer. On est passé de 42 à 34 joueurs. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de joueurs il y a beaucoup moins de joueurs qui viennent s'entraîner avec l'équipe de France. Donc, ils passent quelque part plus de temps sur le terrain, donc il laisse plus d'énergie. Il y a des choses comme ça qui ont été un peu perdues. Le rebond mental, il a pris du temps à s'installer. Donc ça reste un tournoi mitigé avec une attente de confirmation après tout ça. Mais non, l'Angleterre, c'était un super match. On a tous été pris par l'ambiance, par le scénario. Mais dans l'esprit, ça efface évidemment tout ce qui s'est passé avant. Mais Après, quand on débriefe et qu'on revient sur le contenu, on se rend compte de ce qu'il faut encore remettre en place pour redevenir aussi performant que les quatre années d'avant.
Oui, parce que sur les trois victoires, il y en a deux. Donc une contre l'Écosse qui ne se joue pas à grand-chose et contre le Pays de Galles, contre une équipe très affaiblie. Donc quand on y regarde de plus près, c'est quand même moins glorieux.
Bah, oui, oui, et puis surtout, il y a une énorme, baffe reçue contre l'Irlande, qui aujourd'hui est la meilleure nation derrière l'Afrique du Sud, hein, Aurélien, je ne veux pas me fâcher avec
la
toi.
La meilleure nation
en Europe, voilà. Ce revers-là, il existe entre deux équipes qui s'alignaient au même moment avec les mêmes forces, des choses comme ça. Et puis effectivement, après. C'est aussi l'histoire de cette compétition-là. Des fois, il y a des victoires que vous méritez moins que d'autres. Ça arrive aussi aux autres équipes. Je pense que les Écossais, après avoir mené 27, je ne sais plus combien, là, contre
27-0.
Pays de Galles, ouais, 27-0, ouais. Ils se font reprendre 27-26. Sans doute des moments dans ce match où ils auraient pu se dire qu'ils auraient pu avoir un peu moins de chance ou quelque chose comme ça. Ça arrive.
Et donc, les Bleus terminent deuxième encore. C'est la quatrième fois en cinq éditions. Est-ce que c'est un bilan positif ou c'est un bilan frustrant ?
Ah là, pour le coup, moi, je dirais que c'est frustrant, ouais. et c'est même négatif. J'étais positif avant. Tu vois, je suis quand même pas une si mauvaise personne de Renaud Bourrel. Non, je trouve que... Enfin, je trouve qu'on a une super génération avec un des joueurs qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et si on fait le bilan sur 6 ans, donc 6 tournois, une Coupe du Monde, parce que je ne prends pas la Coupe du Monde 2019, donc sur tout le mandat de Fabien Galthié, on n'a gagné qu'un tournoi, on n'a fait qu'un grand chelem. Et au regard de la qualité de cette équipe, je trouve que c'est très peu.
Oui, si tu rapportes ça au vivier français avec ses 30 clubs professionnels... et que tu le compares à l'Irlande qui a 4 clubs professionnels et vient de remporter 2 tournois de suite, un grand chelem plus le tournoi cette année. Oui, sur les 4 dernières années, tu as l'impression que tu n'es pas au niveau que tu peux espérer.
Quoi. Mais même toi qui connais bien les Gallois, qui ont gagné, je crois, 4 tournois, dont 2 grands chelems en une décennie, qui avaient une génération pour le coup exceptionnelle, ils ont bien rentabilisé leur génération.
Ils ont jusqu'à la dernière goutte, quoi. Jusqu'à la dernière goutte d'énergie du trentenaire à 100 sélections, ils les ont essorés jusqu'au bout.
Et c'est ça que je trouve rageant avec cette équipe de France, c'est qu'on avait l'impression qu'il y a quelque chose qui s'était initié. À partir du Grand Chelem 2022, on aurait pu espérer, alors bien sûr la Coupe du Monde, malheureusement ça n'a pas été le cas, mais un seul Grand Chelem là, quand une génération... Il y a quand même des internationaux français qui ont gagné 4 tournois, Imanol Arena-Ordoki. Ça gagnait souvent, quoi. Cette époque-là, on a eu une super génération et elle a rentabilisé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de victoires. Alors, jamais de Coupe du Monde, bien sûr. Mais là, ces mecs-là, des Dupont, des Ntamack, même des Ficou, là, qui a fêté sa 90e sélection, si à la fin... de leur carrière, il y a un tournoi, je trouve que ça fera quand même pas beaucoup.
Pendant ce temps-là, il y a des joueurs qui ont été lancés, donc Le Garec, De Porter, Maré, Meafou. Que vont devenir ces joueurs-là, bon, excepté Meafou, parlons plutôt de Le Garec, De Porter et Maré. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de les revoir en équipe de France dans un avenir proche ?
Ah oui, oui, oui. Bah, déjà, par exemple, on a vu l'impact qu'a eu Meafou, pardon, en deuxième ligne. C'est un poste où le vivier est pas de niveau international, je veux dire, est pas énorme. Et on a vu l'impact que ça a eu et sur la performance du pack français dès qu'il est arrivé avec Flamand, bon, que lui on connaissait déjà. Je pense que Le Garec a marqué vraiment des points, mais lui c'est un joueur qui est programmé pour être international. L'avenir dira s'il a de la chance ou pas d'être de la même génération, un peu plus jeune qu'Antoine Dupont, parce que ça va être dur de lui piquer sa place à Dupont, mais en tout cas il s'est clairement installé. Je crois que Barré a plutôt bluffé tout le monde. Donc,
on espère les revoir, mais après ce qui est difficile, c'est que on pense à donc Le Garec, Barré qui sont des joueurs de talent, mais si on prend par exemple Jalibert qui est un joueur de talent, Ntamack était blessé, malheureusement on a l'impression qu'il ne s'est pas imposé. En fait, c'est ça qu'on ne maîtrise pas. Et avec le retour programmé, normalement, de Dupont et Ntamack, on se demande quand ces joueurs-là auront à nouveau presque leur chance, à part lors des tournées d'été. Alors, il y a eu des très bons exemples de joueurs qui se sont imposés lors des tournées d'été et qui ensuite ont pu enchaîner avec les Bleus. Je pense à Melvin Jaminet. Alors bon, malheureusement, il ne fait plus partie de l'équipe et il a eu un contre-coup qui a été terrible pour lui. Mais Melvin Jaminet s'est imposé, enfin, a brillé en tournée d'été 2021 en Australie. Et derrière, il fait le grand chelem avec les Bleus. Donc on peut espérer la même trajectoire pour des Le Garec, Barré, etc. Mais malheureusement, ça dépendra sans doute des performances ou des blessures de Dupont, Ntamack et il ne faut pas oublier Ramos qui retrouvera son poste d'arrière normalement très rapidement.
Ce qui n'est pas cool pour eux, c'est qu'ils jouent à des postes où tu as des titulaires quasi indiscutables. Quoi. Mmh. Contrairement à Meafou qui débarque dans un grand vide et qui a toute la place pour s'installer, ceux-là, la concurrence n'est pas assez faible pour qu'ils se disent on va s'installer tranquille.
Au centre, presque deux porteurs a presque raté sa chance. Alors c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais lui avait vraiment une possibilité de prendre la place, de prendre le maillot, comme aime bien le dire Fabien Galthié, parce que Danti était suspendu, parce que Danti était moins bon. Moïfana, il n'a pas réussi. Et De Porter, il n'a pas été extraordinaire. Alors, est-ce qu'un Gaëton aura sa chance cet été et pourra essayer de prendre ce maillot-là? Voilà, mais c'est vrai qu'aux autres postes, c'est... Il n'y a pas tant de place que ça, finalement, dans cette équipe de France. Quand on voit un François Cross, qui lui est trentenaire pour le coup, qui a été monstrueux, on se dit que même un bout de an, il joue 10 minutes par match, alors que c'est un super joueur. Quoi.
Sachant donc, que Jelonche reviendra, lui.
Et voilà, et Jelonche va revenir. Donc c'est vrai que quand vous avez votre chance, il ne faut pas trop se rater.
Et est-ce qu'on reverra des joueurs comme Maxime Lucu ou comme Jonathan Danti, où justement ils se sont fait piquer leur place sur ces deux derniers matchs?
Moi, je pense qu'ils ne sont pas éliminés, en fait. Je pense que c'est des joueurs qui ont toujours eu la confiance de cet encadrement, qui sont absolument rincés par la dernière saison qu'ils ont faite. Ça inclut Mathieu Jalibert, qui s'est blessé, mais qui lui aussi est rincé. C'est des mecs qui visaient la Coupe du Monde depuis les deux années précédentes, qui ont enchaîné sur la préparation de la Coupe du Monde, qui ont eu des brèves vacances, puis sont replongés sur le championnat, la Coupe d'Europe, ils sont revenus pour le tournoi. Physiquement et surtout moralement, ils sont très émoussés. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, on peut comprendre qu'ils soient aujourd'hui un peu moins bien que des gars qui sont arrivés avec plein de fraîcheur, dont c'était le rêve d'être là. Le Garec, qu'il y avait vaguement goûté. Comme je vous le disais, lui, il est programmé pour être international de rugby. Donc, effectivement, il est comme un fou quand il est sur le terrain. Barré, je pense qu'il y a 6 mois, vous lui dites vous êtes titulaire contre l'Angleterre à Lyon, il ne te fout pas de ma gueule. Et puis voilà. Donc effectivement, il est plein d'entrain, plein d'envie. Et
Mais ils auraient pu se rater parce qu'on en a vu quand même une pelletée d'internationaux, enfin pseudo-internationaux, qui ont joué un match et qui se sont ratés et qui, pour le coup, eux, on ne les revoyait plus jamais de leur vie. Là, par exemple, un De Porter, même s'il n'a pas été extraordinaire, sans se rater, on le reverra.
De parce Porter, que c'est un joueur de sélection talent. De victoire.
Pas mal.
Aurait aimé
ouais, c'est
commencer
c'est vrai.
Comme ça.
Non, par contre, alors,
moi, je suis moins sévère qu'un peu tout le monde sur De Porter. Je pense aussi que le rugby mis en place par l'équipe de France sur ce tournoi permettait pas non plus à ces trois quarts de s'exprimer et briller comme ça a été le cas les 4 années précédentes. On parlait de Damien Penaud qui a pas marqué d'essai depuis
4 matchs sans essai, c'est jamais arrivé sous Fabien Galthié.
Voilà, donc quand un mec comme lui qui a
ouais, mais Damien Penaud n'a pas marqué d'essai, mais on l'a quand même vu Damien Penaud. On l'a même vu contre le Pays de Galles. Comment Aurélien va sortir la stat des défenseurs battus sur la largeur du terrain.
Ouais, en travers, il est très bon. mais bon, ça a toujours été son style de jeu, mais. C'est sûr que c'est la course en travers, c'est contre l'Angleterre, ça. Oui, il fait un slalom de 32 sur 32 défenseurs, mais d'une touche à l'autre.
Non, mais de Porter, par exemple, sur l'essai du fond du Groupama Stadium, là, sur la relance, il joue super bien le coup avec une passe sur.
Ah non, mais attention, je n'ai jamais dit que De Porter était un.
Je suis pas en train de t'agresser, Max.
Un mauvais joueur. Il n'arrivera jamais au niveau de Gelfico, on est bien d'accord, mais.
Non, mais plus sérieusement. On n'a pas vu de joueur être éliminé de ce tournoi-là parce que.
Je mettrais un bémol sur Woki quand même. J'ai peur que...
Moi, je pense que Woki, il est arrangé dans les mecs rincés par l'année et demie que ouais, tous ces gars-là
le,
ont...
J'ai trouvé le signal un peu dur pour Woki. On aurait pu le garder sur le banc, Woki. Il peut jouer deuxième ligne, troisième ligne. On lui a préféré un Alexandre Roumat, hein, qui est un très beau joueur également. Mais
qui a fait une très belle entrée.
Ouais, j'ai trouvé le signal un peu dur, mais bon, l'avenir nous dira si, si Woki est éliminé ou pas.
Je voulais aussi vous demander un bilan plus global du tournoi. Pour vous, qui a été le meilleur joueur français de cette compétition?
Le meilleur joueur français de cette compétition?
Mais je connais sa réponse. François Cross.
C'est vrai.
Voilà.
Moi, je l'adore, ce François Cross. Il sait tout faire.
Et je vais dire aussi François Cross parce que j'aimerais que mon chef soit gentil avec
moi. Faudrait que je chigne tes vacances, c'est ça?
Non, mais c'est vrai que François Cross, je l'ai dit un petit peu avant. Donc, il a fait un super tournoi. Après... C'est un peu comme Thomas Ramos, en fait. Je pense qu'on ne mesure pas le talent, l'activité. Enfin, voilà, on ne mesure pas le joueur qu'il est, je pense. Parce que c'est quelqu'un de discret, qui fait des tâches un petit peu obscures que tout le monde ne remarque pas forcément. Mais c'est vrai que c'est un sacré joueur.
Il a assuré un intérim en numéro 8 quand Aldridge s'est ouvert la jambe là, contre les Écossais. C'est fabuleux ce qu'il a réussi à faire comme ça, alors qu'il n'avait jamais joué depuis un moment en équipe de France. Hein.
Et j'ai hâte de voir Méafou sur l'intégralité d'un tournoi, parce que sur deux matchs, c'était quand même pas mal. Et je peux citer un troisième joueur, je mettrai une petite mention à Winnie Antonio, qui devait arrêter sa carrière internationale et qui a fait quand même un sacré tournoi.
Et dans les autres équipes, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a particulièrement marqué cette année, Aurélien?
Pour parler de l'Italie un peu, moi, j'ai été... agréablement surpris par leur jeu cette année, qui était hyper structuré et moins foufou que les années précédentes, où ils avaient tendance à surjouer ils s'épuisaient sur des attaques parfois qui n'avaient aucune chance d'aboutir. Là, tout semblait penser dans leur jeu, et dans leur paire de centres a fait un super tournoi, Brex et Menoncello. Et Menoncello, 21 ans, je l'ai découvert sur ce tournoi et j'ai trouvé qu'il était vraiment impressionnant, quoi. Il joue encore dans le championnat italien et ce ne serait pas surprenant de le voir débarquer dans le top 14 dans les années à venir.
Non, alors moi j'ai beaucoup aimé McCarthy, là, le deuxième ligne irlandais. Contre l'équipe de France, il a été absolument extraordinaire il a maintenu le niveau, je crois, tout le tournoi. Et puis ça va faire hurler beaucoup de monde, mais j'aime beaucoup ce numéro 8 anglais Earl là. Qui est méchant comme une peine.
Qu'il a fait gagner l'équipe de France sur son dernier plaquage.
Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un joueur, il a une énergie, une activité sur tous les secteurs qui est assez impressionnante. Et pourtant, il a une taille de hobbit pour un numéro 8, mais c'est assez fabuleux.
Tire à lui dire.
Et un mot sur l'Irlande, qui a remporté le tournoi encore. Et tu y étais, Aurélien. Comment c'était ce match du titre?
Tendu un long moment, donc l'Irlande était assez brouillonne contre l'Écosse. Alors ils savaient que à 99% le tournoi était déjà gagné, même en cas de défaite, et il aurait fallu un concours de circonstances de dingue pour qu'ils remportent pas le tournoi. Mais on n'a vraiment pas vu la même Irlande que contre la France en ouverture. C'est une équipe qui a eu la courbe inverse de la France, en fait, qui a commencé à bloc et qui a été plus fatiguée sur la fin. Donc eux, ils ont payé leur Coupe du Monde, etc., plutôt en fin de tournoi. Et l'ambiance à la Viva était pareil, un peu atone un long moment. Ça s'est débloqué vers l'heure de jeu quand ils ont mené et que là, il ne pouvait plus rien leur arriver. Ils n'ont pas fanfaronné après le tournoi. C'était bizarre, hein, d'ailleurs, parce que tu as l'impression qu'ils sont presque blasés. C'est leur sixième tournoi gagné depuis 2009.
Ils devaient faire sans le grand chelem, ça leur a... gâcher la fête.
C'est peut-être un peu ça, ouais. Je rappelle que 6 depuis 2009, la France, c'est 2 sur les mêmes 15 dernières années. Donc le bilan...
On a vu le plaisir avec lequel il dit ça.
Mais ils avaient presque l'air... Peter O'Mahony a gagné son cinquième tournoi. Donc il est arrivé en tant que capitaine un peu...
Pour ça, la France.
Déjà un peu habitué, quoi. Mais au-delà de ça, ce qui était intéressant, c'est qu'on sent que eux préparent aussi une transition petit à petit. Donc, ils ont fait jouer un nouveau numéro 10, ce Joe McCarthy en deuxième ligne aussi, dont on parlait juste avant. Peter O'Mahony, qui était capitaine pour la première fois à 34 ans, risque de prendre sa retraite juste maintenant. En fait, Andy Farrell a voulu garder la même génération petit à petit, installant de nouveaux joueurs, mais sans rien de brutal, quoi. Il n'a pas dit à O'Mahony, écoute, tu ne seras pas là dans 4 ans, je ne joue même pas ce tournoi, ce n'est pas la peine. Il a dit, écoute, tu seras capitaine. Et la transition s'est fait comme ça et va continuer petit à petit pendant le cycle jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Donc, ils renouvellent intelligemment leur effectif petit à petit, tout en réussissant à toujours gagner, ce qui est un double défi.
Mais c'est un peu pour ça, en 2027, sauter en quart de finale du Coupe du Monde, rappelons-le.
Non, mais c'est un peu ça. C'est ce que le tableau que dépeint Aurélien, c'est un peu ça que l'équipe de France a peut-être, je dis bien peut-être, on ne le saura jamais, raté en attaquant ce tournoi. C'est-à-dire que tout le monde était conscient qu'il y avait énormément de joueurs rincés, mais il y avait tellement ce sentiment de prendre sa revanche par rapport à l'élimination du quart de finale que Fabien Galthié, il n'a pas osé mettre à l'herbage des joueurs qui étaient authentiquement rincés. Ils n'ont pas osé non plus leur demander d'arriver préparés comme d'habitude sur les années précédentes parce que les clubs les avaient déjà beaucoup sollicités et que ça aurait été dur de leur faire remettre une couche. Et peut-être que dès le début du tournoi, en fait, il aurait fallu, et c'est facile de le dire maintenant et à la lumière des deux victoires contre Galles et l'Angleterre, injecter cette fraîcheur qu'il y a eu avec Deporter, Barré, Le Garec notamment. Bon, Méafou n'aurait pas été disponible, mais on se rend compte aussi que quand tu rentres,
Méafou flamand, c'est quand même pas la même équipe.
Exactement, hein. ton paquet d'avant change. Mais voilà, un peu plus de fraîcheur dès le début du tournoi. Est-ce que ça aurait permis de battre les Irlandais? Pas sûr, vu la marche qu'il y avait sur ce match-là, mais ça aurait peut-être donné une autre tonalité à l'histoire.
Et notamment, puis il nous manquait Super Dupont.
Et puis non, mais tu parles de Dupont, et puis il y a Ntamack qui va revenir. Et à partir du moment où ces deux-là, plus Jelonge, vont se remettre dans l'équation, on sera quand même sur une équipe.
Et puis Marchand, hein, qui était remplaçant en début de tournoi, qui revenait de blessure avec un Movaka qui n'avait pas autant de gaz qu'à la Coupe du Monde. Et là, finalement, bah, quand Marchand est re à son niveau et que Movaka refait des entrées un petit peu tonitruantes, bah, ça change l'équipe. Hein. Il faut quand même pas se le cacher. Jelonge aussi qui manque. Enfin bon, on va pas refaire la liste.
Mais... Non, mais on va refaire le podcast parce qu'on aurait dû recommencer par ça.
Non, on va plutôt finir avec une dernière question.
Excuse-moi de bien vouloir faire les choses. Hein.
Ouais, mais on va aller un peu plus vite. On retrouvera les Bleus cet été pour une tournée en Argentine. Deux matchs les 6 et 13 juillet avec une liste particulière parce que ça sera sans les finalistes, sans les internationaux dits premium qui ont beaucoup joué pendant la Coupe du Monde et pendant le tournoi. Donc Renaud, toi qui as envie de parler et toi qui suivras l'Argentine, la tournée en Argentine cet été, quels seront les enjeux de cette tournée?
Ça a oublié un match à Montevideo.
J'allais en parler après.
Ah, d'accord, très bien. On mélange les dates, c'est l'anarchie.
Un match qui ne sera pas reconnu comme un match officiel, donc il ne comptera pas vraiment.
Ouais. Il comptera pour ceux qui le joueront, je peux vous le dire.
Un mercredi.
Donc la dernière fois qu'on a joué l'Uruguay, on en a chié un peu. Enfin, bon, je parle sous votre contrôle.
Oui, je crois, oui.
De mémoire. Non. La question.
Quels seront les enjeux de la tournée déjà, en Argentine
voir,
et en Uruguay?
Voir des joueurs, comme à peu près à chaque fois. Alors, est-ce que cette politique continuera une fois que la Coupe des Nations sera installée là, dans 2 ans? On verra. Mais là, en tout cas, ils vont partir sans les finalistes, en laissant beaucoup de cadres au repos, parce que là, ils auront vraiment besoin de couper. Donc ça va permettre de tester des jeunes, sans doute d'ailleurs pas mal de moins de 20, hein, c'est l'équipe de France Développement, donc ça va être une revue d'effectifs comme il y en a eu sur le mandat précédent.
Comme en Australie,
comme au Japon aussi, où il y avait
un peu
plus de
cas. Mais Australie surtout.
Ils joueront peut-être pas tous d'ailleurs, parce que l'objectif, si la philosophie reste la même, ce sera de gagner des matchs, et l'Argentine c'est pas une petite nation, hein, elle est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Donc non, ce sera intéressant, même si c'est toujours curieux de voir l'équipe de France jouer sans ses meilleurs joueurs.
D'ailleurs, on peut rappeler que Le Garec avait fait une tournée au Japon, il n'avait pas joué, je crois. Ça arrive. Buros aussi a fait une tournée en Australie et au Japon, et toujours à 0 sélection. Donc c'est pas si facile que ça.
Donc on suivra ces deux matchs.
Il faut aller chercher le maillot.
Donc on verra ces deux matchs ce que ça donne en Argentine et en Uruguay. Merci d'avoir été dans Crunch aujourd'hui. J'étais avec Renaud Bourrel, Maxime Rollin et Aurélien Bousset qui étaient tous très dissipés. Et avec Marie-Amélie Motte à l'enregistrement. Merci de nous avoir écoutés pendant le tournoi. Mais Crunch continue, ne vous inquiétez pas. Et d'ici là, vous pouvez lire nos articles sur le site de l'équipe. Et n'oubliez pas non plus le replay du Salon Tactique. À bientôt, salut.